Merci beaucoup. Encore des pistes, hein, finalement, et des solutions possibles. Elles sont loin. Et comment est-ce qu'on pourrait les rapatrier ici? Voilà, ça pose encore beaucoup de questions par rapport à notre avenir dans l'arc jurassien. Alors, je passe la parole à Thierry Brunet pour la conférence transjurassienne, un organisme qui fait de la coopération transfrontalière, qui a été plus ou moins évoqué sous-jacent à certaines innovations qui ont eu lieu dans l'arc jurassien. Je pense au covoiturage, par exemple. Donc, Thierry, quelle est la vision de la CTJ par rapport à cette coopération transfrontalière autour des mobilités et qui pourrait soutenir le développement de l'économie présentielle et résidentielle?
C'est bon, tout ça fonctionne, oui. Est-ce que tu pourrais remettre peut-être la carte que tu avais présentée dans le premier PowerPoint sur le périmètre CTJ, juste pour situer un petit peu le contexte géographique. Enfin, juste commencer pendant ce temps, peut-être avec une introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, la conférence transjurassienne, en fait, très rapidement, c'est une structure de coopération qui est née dans les années, enfin, 1985, et qui résultait d'un constat, c'est que finalement, on se parlait très peu de part et d'autre de la frontière, alors qu'il y a quand même des besoins et des logiques partagées, et que le premier pas qui a été fait, c'était de faire rencontrer les élus de ces territoires. Donc, c'était une structure qui réunissait les cantons suisses frontaliers, donc essentiellement Jura, Berne et Neuchâtel et le canton de Vaud, et la région Franche-Comté à l'époque, devenue aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans ce cadre-là, l'État n'était pas présent, et l'État que je représente ici pour la préfecture de région est rentré dans la CTJ, en fait, pour faire simple, en 2002. Ça donnait l'occasion d'un nouveau nom, c'est devenu Conférence transjurassienne. Avant, ça s'appelait Communauté de travail du Jura. Et à ce titre, donc, depuis, les éléments de dialogue qui sont faits au sein de la CTJ sont partagés côté français entre le Conseil régional, donc la région, la préfecture de région, et puis donc la représentation suisse des quatre cantons. Donc le territoire que nous couvrons en quelques mots, parce que c'est important pour la suite, c'est en gros le territoire jaune. C'est un territoire plutôt institutionnel, global. Alexandre en a parlé rapidement tout à l'heure. Et puis il nous est apparu lors des activités de la CTJ qu'on ne pouvait pas uniquement faire si on peut dire, de la macro-analyse du territoire de l'arc jurassien, 230 km de frontières, on l'a dit, des cantons suisses différents les uns des autres, et qui est par une approche plus locale, plus sectorielle, et donc qui a été structurée quelque part par le territoire. Hein, Alexandre a travaillé avec nous là-dessus, et on a travaillé beaucoup sur les entrées de mobilité, puisque c'est un des thèmes du jour, pour identifier en fait les zones qui se sont créées autour de ces points de passage et ces points de mobilité. Donc Alexandre les a présentés tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Donc moi, je ne vais peut-être pas répondre tout de suite à tes questions, mais j'avais quand même deux, trois éléments comme intervenant en dernier. C'est toujours un petit peu difficile de voir ce qui va être dit et comment se positionner. Moi, il y a une chose puisque tu m'invitais à participer sur le plan plutôt des questions politiques, en fait, des dialogues, chose qui me paraît intéressante, c'est de définir, ça m'est venu un petit peu en écoutant, ce que j'appellerais finalement un objet politique transfrontalier. C'est-à-dire, c'est quoi un objet politique transfrontalier? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un sujet qui peut être travaillé en commun. Donc, rapidement, j'avais listé, ce n'est pas une étude universitaire, hein, ce n'est pas une thèse, mais simplement, il me semble qu'il y a trois, quatre caractéristiques qu'il faut avoir en tête, aussi bien quand on parle d'économie résidentielle que de mobilité. Le premier point, c'est qu'il faut que le sujet présente un intérêt commun en France et en Suisse. Et là, on est sur une question qui peut paraître très triviale, mais c'est loin d'être évident, parce que les agendas politiques, les évolutions culturelles ne sont pas forcément les mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure sur un petit mot rapide quand on parlera d'économie résidentielle. On peut avoir des intérêts qui ne sont pas les mêmes au même moment pour des visions politiques, pour des questions de structure économique des pays. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut lever. Donc il faut des sujets partagés. Ensuite, il faut tenir compte que ces objets politiques transfrontaliers, ils se caractériseront toujours par une grande complexité institutionnelle. Qu'on le veuille ou non, il y a une frontière. Elle n'est pas qu'électrique, comme disait Patrick tout à l'heure, elle est aussi politique. Si elle n'est pas évidente sur le territoire quand on traverse la frontière, puisque les paysages, les territoires sont assez homogènes, elle est réelle dès qu'on commence à travailler des thématiques, puisque les cadres légaux, les dispositifs, les structures d'État, de direction ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a un autre problème qui est très important, surtout dans l'arc jurassien, peut-être, parce qu'on est un petit territoire isolé, fractionné, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les lieux de décision ne sont pas forcément sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des sujets, la mobilité est un très bon exemple, on va travailler sur des sujets pour lesquels les leviers politiques, finalement, sont à Paris ou à Berne, parfois, et l'arc jurassien, vu de Paris ou de Berne, c'est, je crois que c'est toi qui employais ce terme, c'est quand même des centralités périphériques, mais pour le coup très périphériques quand même. Donc on n'a pas forcément les moyens au local, même en ayant les cantons et en ayant la présidente de région ou le préfet de région, de trancher, d'arbitrer et de peser finalement sur les décisions qui seront prises à un autre niveau. Et enfin, il y a un quatrième point qui est important, et ça c'est peut-être par contre, tu as plusieurs reprises pointé les limites du fonctionnement politique dans l'arc jurassien, c'est qu'on n'a pas, je rebondis aussi sur ce que disait madame tout à l'heure pour l'ODAB, on n'a pas véritablement de fonds identifiés, mutualisés, pour travailler sur avoir des leviers d'intervention communs. C'est-à-dire, il y a effectivement un programme européen qui s'appelle Interreg, j'en redirai un mot à la fin de mon intervention, mais ce programme-là, il est européen, il obéit à des règles particulières, il fonctionne avec la Suisse, même si la Suisse n'est pas sur l'espace européen politiquement, mais pourtant, il a un certain nombre d'inconvénients de lourdeur. Ce que je veux dire par là, c'est que les collectivités, les cantons en Suisse ou la région en France, ou les services de l'État, n'ont pas forcément des enveloppes financières dédiées aux questions transfrontalières. Donc bien souvent, on va chercher les financements dans d'autres enveloppes et on en flèche une partie ou on en trouve une partie, parfois résiduelle, dans ces enveloppes-là pour aller faire quelque chose de transfrontalier. Donc ça, je reviens sur la question du 1 pour 1 avec le Luxembourg, par exemple. C'est vrai qu'il y a un CPER qui a été fait, qui existe, contrat de plan État-région, mais ce CPER, il n'a pas un axe qui s'appelle coopération transfrontalière avec X milliers ou centaines de milliers ou millions d'euros dessus. Donc, il y a un axe mobilité dedans, et dans cet axe mobilité, il se trouve qu'il y a la ligne des horlogers, dont on a beaucoup parlé. Mais ce n'est pas une thématique identifiée comme une thématique structurante du CPER. C'est un élément parmi d'autres. Donc, il y a déjà ces quatre points qui me paraissent caractériser ce que j'appellerais ces objets politiques transfrontaliers, qui, vus d'assez loin, peuvent ressembler donc à des ovnis aussi, parce que ce n'est pas toujours bien identifié sur ce qu'on veut faire et comment on va pouvoir y travailler. Mais forcément, ça crée, ce que tu as expliqué, des attentes, des frustrations, parce qu'on se dit « ça ne va pas très vite, ça fait des années qu'on parle de la même chose ». Et pour fréquenter depuis des années des structures de dialogue transfrontalier, c'est vrai qu'il y a des sujets, on sait tous les ans qu'on va les voir revenir, et que le point de situation, il ne va pas être très différent de l'année précédente. Donc ça, c'est une source de frustration, mais il faut tenir compte quand même de la caractéristique de l'objet qu'on étudie. Autre point, finalement, comment en faire ? Soit il faut être patient, enfin, je pourrais qu'il faut être les deux, il faut être patient, mais il faut surtout être agile, donc surtout être malin, en fait. C'est-à-dire arriver, alors je ne vais pas dire à contourner les règles, en tant que représentant de l'État, ça poserait problème, mais il faut trouver moyen de jouer avec ces règles-là et de les aménager. Et donc, ça prend du temps, parce qu'être malin, ce n'est pas forcément spontané, et donc ça se travaille aussi. Et donc, il faut trouver des solutions. Il faut lire les textes, il faut voir comment on peut faire sans ou pour faire avec. Et sur ce point-là, il y a quelques évolutions politiques, sur lesquelles je reviendrai peut-être, mais dans le cadre de ce qui s'appelait la présidence du Luxembourg de l'Union européenne, il y a eu une tentative qui n'est pas encore complètement formalisée, d'essayer de faire que lorsqu'on veut faire une coopération sur deux frontières, sur un sujet, les mobilités par exemple, ça soit la règle la moins contraignante d'un point de vue institutionnel entre les deux pays ou les trois pays qui soient retenus. C'est-à-dire, en fait, de faire au plus simple. Alors, ce n'est pas encore formalisé, c'est dans les tuyaux, si on peut dire. Ça se travaille depuis un moment. Ça pose beaucoup de problèmes. Du côté français, notamment, le ministère de l'Intérieur a de grosses difficultés à intégrer ça de manière tout à fait libre et spontanée. Mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'on essaierait d'appliquer les règlements les moins contraignants pour ne pas superposer les couches administratives. Voilà, donc ça, c'est un point qui peut être abordé de manière générale. Donc maintenant, pour revenir à ce que tu évoquais sur les deux sujets du jour, quelque part, la CTJ, donc la conférence transjurassienne, travaille régulièrement sur des thématiques. Et en préparant un petit peu cette séance, je me suis livré un exercice qui est toujours amusant, mais un peu effarant aussi, c'est de voir la mobilité, ça fait quand même des années qu'on en parle. Et je ne suis pas remonté très très loin, mais en 2010... la CTJ sort un schéma des mobilités transfrontalières. Donc, j'en ai pas suffisamment d'exemples pour pouvoir le diffuser, mais donc un document, ça c'est juste la synthèse en fait. Donc, document qui avait été préparé, enfin un travail qui a été préparé à l'occasion de l'ouverture de la LGV Rhin-Rhône et donc de l'impact prévisible que cette LGV aurait sur l'organisation des lignes qui traversent le territoire. Donc, 2010, il y avait déjà eu d'autres travaux avant, hein, c'est pas l'acte fondateur. Ensuite, la CTJ fait une stratégie en 2014-2015. On a à nouveau un volet sur les mobilités transfrontalières, dans lequel on dit qu'il faut les renforcer, les développer. Le Césaire, Alexandre connaît bien le sujet, sort une étude sur les coopérations avec les territoires de proximité, et dans le volet avec la Suisse, développe évidemment l'insuffisance de l'offre et la nécessité de développer des mobilités. Donc là, c'est l'exemple type où on peut se dire le besoin il est identifié, mais ça avance comment ? Donc sur ce point-là, on a quels outils en fait ? C'est peut-être là-dessus que vous voulez que je vienne particulièrement. Quels outils ? Bah, les outils sont d'abord des outils de dialogue. Alors, ce n'est pas forcément satisfaisant, mais c'est déjà de partager les constats. Et un des premiers points sur lesquels on travaille au niveau de la CTJ, comme dans une autre structure qui s'appelle le dialogue franco-suisse, c'est une structure qui a lieu une fois par an, c'est un dialogue pardon, qui a lieu une fois par an, et qui se tient alternativement en France ou en Suisse, où là, on pointe plutôt des sujets binationaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'arc jurassien, mais on parle de la France et de la Suisse. Donc, il y a des sujets qui impactent notre territoire, qui ne peuvent être traités qu'à ce niveau-là. Parce que, pour le coup, c'est vraiment Paris et Berne qui sont plutôt à la manœuvre en termes de levier institutionnel. Donc, des grands sujets, comme par exemple, aujourd'hui, il y a un sujet récurrent, c'est celui des parcs éoliens, par exemple. Quelle législation, qu'est-ce qu'on doit faire quand on implante un parc éolien près de la frontière ? Donc, comment tenir compte des attentes législatives de part et d'autre de la frontière pour éviter justement de créer des tensions. On a des sujets sur les transports, des sujets sur les eaux du Doubs, on a des sujets de ce genre qui reviennent. Et puis, on a donc les sujets, les lieux de dialogue, comme la CTJ, qui sont des lieux de dialogue plus locaux, où on peut faire part des attentes et des griefs. Cela étant, sur le transport, encore une fois, on a plutôt... Là, je m'inscrirai un petit peu en faux. C'est long, ça avance lentement. On est quand même plutôt dans une période assez favorable. Je ne vais pas revenir en détail sur les lignes. Elles ont été présentées largement dans les précédentes interventions. Mais les signaux sont quand même plutôt favorables aujourd'hui à la faible échelle de ce qui se fait. C'est-à-dire quand même qu'on réouvre une ligne en France, ce qui est quand même exceptionnel aujourd'hui, sur des budgets très importants. Une ligne qui va quand même véritablement permettre d'irriguer le territoire. Il y a une coopération exemplaire qui peut vous concerner peut-être plus que d'autres, qui est celle des lieux d'enseignement supérieur et de recherche dans l'arc jurassien, qui s'appelle la communauté du savoir, qui relie 7 établissements franco-suisses qui ont des projets de collaboration en commun, qui mutualisent des équipements, bibliothèques, etc. On se retrouve finalement avec une dorsale, avec cette ligne, qui va relier quand même 5 des 7 établissements. Donc on va se retrouver avec l'UTBM, la HEARC, la Haute École Pédagogique, l'Université de Neuchâtel, et l'école d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon, qui vont se retrouver peu ou prou, même s'il peut y avoir des changements, sur une ligne commune. Donc ça, c'est un élément structurant qui est quand même très fort. Ça, c'est très positif. Ensuite, quels autres éléments d'intervention, quels autres éléments sur les lignes qui ont été citées précédemment ? On le voit, les questions de la ligne des horlogers sont pour certaines en passe d'être résolues. Ça tourne depuis longtemps. Ce n'est pas complètement satisfaisant, mais en tout cas, l'infrastructure sera sauvegardée. Sur les autres lignes, effectivement, on se heurte à la question de la masse critique qui a été évoquée. On est sur un territoire très dispersé. Donc, le coût au kilomètre qu'évoquait Patrick, moi j'étais de l'ordre de 23 euros du coût kilomètre d'exploitation, mais bon, après on peut discuter selon les territoires, elle est souvent freinante pour les collectivités. Parce que le raisonnement, il est encore aujourd'hui à court terme. C'est-à-dire qu'on voit ce que coûte une ligne et on voit ce qu'on économise si on la ferme. Par contre, effectivement, il faut reposer ces questions-là. Mais ça, ce n'est pas encore clairement dans la tête des décideurs, je pense, aujourd'hui, à l'aune des problèmes qu'on rencontre. Coût des carburants, évolution, transition écologique, dispersion de l'habitat, qu'on a encouragé aussi pendant des années, donc qui ne peuvent pas être non plus inversés. Donc si on pose tous ces éléments-là, effectivement, il y a véritablement des sujets qui commencent à être partagés. Je reviens à l'intérêt commun à un moment donné. On commence à rencontrer des échos en France et en Suisse, où au même moment, on a envie quand même de développer ces projets-là. Mais les financements, mais les lieux de décision. Voilà. Donc, d'où le temps en question. Ça, c'était pour la question un petit peu des transports. Je voulais dire un mot très rapide, parce que ce n'était peut-être pas le thème central, sur l'économie résidentielle. Là, on a un très bel exemple de problème. Quand on a rédigé la stratégie de coopération de la conférence transjurassienne, elle est sortie en 2016, donc elle a été rédigée en 2015 pour l'essentiel. Il y avait une forte demande côté France, pour que le sujet de l'économie résidentielle, présentielle, je ne rentre pas dans le débat, vous l'avez discuté par ailleurs, soit inscrit noir sur blanc dans la stratégie. Il n'y avait pas de volonté en Suisse de le faire. La volonté politique en Suisse était de dire, on veut être identifié comme une région industrielle, une région productive. Si on commence à développer ces logiques-là, on va passer pour des réserves d'Indiens vis-à-vis des autres territoires. Donc, on ne met pas ce sujet à l'actualité politique. Il y a eu une négociation, on l'a inscrite, en tant que tel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Côté Suisse, la notion d'économie résidentielle présentielle, elle est pleinement intégrée, ça s'est fait très vite, au point que la structure de coopération qui s'appelle arcjurassien.ch, qui est la structure qui réunit les 4 cantons suisses au sein de la CTJ, fait ses 10 ans la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur son site, parce que c'est une manifestation très intéressante, arcjurassien.ch, donc, fait ses 10 ans sur la thématique de l'économie résidentielle. Donc, c'est à l'agenda politique, maintenant, en Suisse, cette question-là. avec une thématique sur arc jurassien, on a trouvé la fuite, pourquoi est-ce qu'on crée de la richesse qui ne reste pas sur le territoire. Donc cette mise à l'agenda, elle est quand même très importante, et sur le transport, c'est un peu moins vrai, mais sur l'économie résidentielle, on a un très bel exemple de ce qu'on peut faire. Et je terminerai sur un point avant d'attaquer les outils plus en détail. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait être malin. Et je trouve que l'économie résidentielle, c'est généralement des gens malins qui la font. C'est des structures qui ont souvent peu de moyens, qui ne sont pas toujours très bien reconnues d'un point de vue institutionnel, donc qui sont habitués à être performants avec ce qu'ils ont. Et je voulais juste citer un exemple. Alors pour l'instant, le projet, il est vraiment très, très embryonnaire, mais un exemple pour contourner les frontières et les règles institutionnelles. Je discutais il y a peu avec un ancien élu de la région Franche-Comté, Alain Fousseret, que Patrick connaît bien, qui s'est retiré de la vie politique et qui s'occupe aujourd'hui d'une structure d'insertion à Del, puisqu'on parlait d'Del, ce Halling Belfort-Bienne. Il a été développé sur place une épicerie et un café solidaire dans la gare de Del, ce qui permet d'avoir donc une activité dans une gare, ce qui est aussi une condition d'ailleurs pour que les gares soient des lieux attractifs pour du coworking, pour de la vie citoyenne, pour des échanges. Et ce travail qu'il a fait aujourd'hui l'a amené bien sûr à rencontrer des homologues en Suisse. Et là, ils ont un projet. Alors, c'est un petit rien d'officiel pour l'instant, mais ils ont un projet de coopération avec Emmaüs qui est situé à Boncourt. Et la question, c'est de dire, eux, ils offrent un lieu, donc à Del, où on peut manger et se restaurer. Emmaüs dispose de locaux assez vastes dans lesquels il peut accueillir notamment des réunions et des formations. La question, par exemple, c'est de faire manger les personnes qui viennent. Ils ne sont pas équipés côté Suisse pour le faire. Donc, première solution qu'on ferait sur un territoire français, c'est que la structure qui produit la nourriture, le café solidaire de la gare de Del, il irait livré à 10 minutes, un quart d'heure de là. Sauf que là, au milieu, il y a quoi ? Il y a une frontière. Et vous ne passez pas la frontière avec des denrées alimentaires sans problème avec les douanes, sans déclaration, sans documents extrêmement complexes, parce que ça, c'est la réalité institutionnelle. La frontière, elle est, je te disais électrique, mais elle est quand même politique aussi. Et donc, pour le coup, la solution d'être malin, c'est quoi ? C'est comme il y a très peu de lieux, il y a à peu près 5 minutes entre les deux structures, c'est les stagiaires. Le projet, c'est que les stagiaires qui seront en Suisse ou les gens qui sont habités en Suisse viendront manger sur le territoire français. Donc finalement, c'est des personnes qui traverseront la frontière. Il n'y a pas de trafic de nourriture, il n'y a pas de passage de nourriture. Donc le problème est contourné. Donc on a été pour le coup, enfin, ils seront parce que ce n'est pas encore fait, mais le projet, justement, c'est d'être malin. Donc on arrive à faire quand même, même sur des sujets comme l'économie résidentielle, mais il faut ruser et ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc, pour finir, sur le sujet des outils dont parlait Alexandre tout à l'heure, j'ai dit les structures de concertation et les financements. Et sur les financements, on a, disons, trois outils majeurs aujourd'hui. Le programme Interreg, qui a été évoqué, qui est un gros programme européen, 55 millions d'euros du côté français, à peu près l'équivalent côté suisse, sur lequel il y a un axe priorisé qui s'appelle les mobilités, encourager le transport durable. Voilà. Donc ça, c'est explicitement à l'intérieur. Problème de cet axe-là, un projet de mobilité durable, c'est lourd, c'est long à monter, ça prend du temps. Donc, pour le coup, il faut du temps aussi pour le financer. Et on ne le voit pas forcément à l'horizon d'une seule programmation de 4-5 ans. Il faut parfois plus longtemps pour le monter. Deuxième moyen de financement, ça a été évoqué aussi. Le contrat de plan État-Région, ça a été cité à l'occasion de la ligne des horlogers. Là, c'est aussi un outil par lequel la région et l'État contractualisent en fixant des priorités au niveau d'un territoire. Et il y a des sujets transfrontaliers à l'intérieur, même si je l'ai dit, il n'y a pas d'axe spécifiquement transfrontalier. Et puis, de manière nettement plus anecdotique et modeste, mais ça peut jouer pour l'économie résidentielle. La CTJ aussi s'est dotée progressivement d'un fonds petit projet transfrontalier pour favoriser le vivre ensemble transfrontalier. Donc là, ça joue à plein avec l'économie résidentielle éventuellement, qui permet aussi de soutenir des projets de petites associations de proximité sur des sujets tels que justement l'économie résidentielle, le culturel ou le sportif. Voilà, à peu près pour finir, pour moi, si ça correspond à peu près à ce que tu voulais.